heure en l'émission Une heure en Palestine, qui est programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur les ondes de Radio Galère et qui est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13 qui vous propose cette émission. C'est Sidi qui est à la technique. Merci Sidi et merci à toute l'équipe de Radio Galère. Ce soir, nous sommes quatre pour animer cette émission. Farah et moi-même, Claire, qui sommes membres de Palestine 13, Marc, que vous connaissez, un acteur culturel marseillais et militant pour la justice en Palestine, et notre invitée, que nous sommes très très heureux de recevoir, la réalisatrice Marie Geniès. Le fil de conducteur de notre émission sera son film « La mémoire contre l'oubli ». Marc lira des poèmes palestiniens choisis par Marie, qui a aussi choisi les musiques qui ponctueront cette émission. Mais avant de démarrer, je vous rappelle que pour Palestine 13, si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement, assopalestine13.org. Nous renouvelons les articles de notre site et de notre page Facebook chaque jour en essayant d'alterner actualités locales et internationales, des documents de fond ainsi que des pages historiques, culturelles ou sportives. Vous trouverez des pétitions, des appels à participer aux campagnes nationales ou internationales comme celle en cours contre Puma. Puma, un des sponsors de l'OM, honte à lui, car il est aussi le sponsor des équipes de foot des colonies israéliennes illégales. Car bien sûr, Palestine 13 est partie prenante du mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, mouvement créé par les Palestiniens en référence au mouvement de boycott de l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Sur notre site, dans la rubrique Agenda, vous trouverez les dates et lieux des actions à venir à Marseille, à Martigues et dans notre département autour de la question palestinienne, qu'il s'agisse de films, de rencontres ou d'autres événements. Je vous rappelle, assopalestine13.org et page Facebook Palestine 13. Il y en a beaucoup et je vous invite à les consulter. Je vous rappelle que ce soir, à 20h30, au cinéma La Baleine, le film Alam, en avant-première, est suivi d'une rencontre avec le réalisateur Firas Khoury, dont c'est le premier long-métrage, un long-métrage qui a obtenu le grand prix du Festival international du film d'éducation à Toronto l'année dernière. Je propose que Farah nous lise le scénario du film.
Ta mère est palestinienne et vit en Israël. Il mène avec ses amis la vie d'un lycéen insouciant jusqu'à l'arrivée de la belle Maïssa. Pour lui plaire, ta mère accepte de prendre part à une mystérieuse opération drapeau à la veille de la fête d'indépendance israélienne, jour de deuil pour les Palestiniens.
Donc rendez-vous à 20h30 au cinéma La Baleine. Ce film à l'âme, il sera encore présenté les jours prochains. La semaine prochaine, venu à Marseille les 12 et 13 septembre, de Mohamed Sabanet, dessinateur caricaturiste que nous avons déjà rencontré au Festival du dessin de presse et de la caricature de l'Estac. Le 12 septembre, il présentera son nouvel ouvrage à la librairie Transit et le 13 septembre au Polygone étoilé avec la projection d'un documentaire « Beautiful Résistance ». Peindre, c'est résister. Nous sommes ravis de bientôt revoir Mohamed. Une autre très bonne nouvelle. En novembre et décembre, le Théâtre de la Joliette proposera trois spectacles que nous avions rêvé de voir à Marseille. La première pièce, le 21 novembre, nous permettra de découvrir le Cachabit Théâtre avec une pièce qui a connu un grand succès la saison dernière. Elle s'appelle « Milk ».
Présentée comme une tragédie moderne, Milk revêt les traits d'une composition muette, une série de tableaux saisissants mettant en scène des femmes touchées par la disparition de leur fils. Elles sont palestiniennes, mais pourraient venir de Kiev ou Paris, tant leur histoire est universelle. À travers leur corps en mouvement, le metteur en scène palestinien Bachar Morkos déploie une pièce bouleversante, une ode au deuil, à la perte et à la douleur du souvenir.
Toujours au Théâtre de la Joliette, les 21 et 22 novembre, nous aurons le bonheur de découvrir le Prud'homme Théâtre avec la pièce « And Here I Am ».
Hemed Tobazi interprète sa propre histoire, Brillamment mise en vie par le célèbre écrivain irakien Hassan Abdulrazak, cette série d'épisodes tragi-comiques retrace son parcours depuis son appartenance à la djihad islamique palestinienne jusqu'au comédien qui se présente aujourd'hui devant vous avec une question en tête. La scène peut-elle être aussi puissante qu'un fusil ?
Et troisième pièce de cette programmation, une histoire subjective du Proche-Orient du 2 au 15 décembre. C'est une histoire subjective du Proche-Orient, mais néanmoins valide par le théâtre Majaz. À travers l'histoire d'une femme partagée entre le Liban, la Palestine et la France, le théâtre Majaz dessine la cartographie sensible et intime d'un aller-retour entre l'Occident et l'Orient, une histoire de passion et de tragédie, d'identité morcelée et d'espoir permanent. La programmation du théâtre de la Joliette est en ligne et les réservations sont ouvertes. Précipitez-vous. Et moi, au nom des militants de Palestine 13, du collectif Palestine en résistance et, en votre nom j'espère, je souhaite remercier le Théâtre de la Joliette pour cette magnifique programmation. Merci à eux pour leur courage et leur ouverture d'esprit. Il y a d'autres événements dans l'agenda. Un stand de Palestine 13 à la fête des retraités CGT à Septem-les-Vallon le 28 septembre. Un événement marseillais important le 14 octobre qui analysera les accords d'Oslo et leurs conséquences actuelles. Un bus pour participer à la manifestation de soutien à Georges Ibrahim Abdallah devant la prison de Lannemezan. Un colloque de l'IREMO Sud sur les changements climatiques en Méditerranée. Mais je vous laisse les découvrir. www.assopalestine13.org. Donc, je vais demander... Peut-être, on pourrait faire une petite pause. Marc pourrait nous lire un petit poème avant de démarrer. Marc, à toi.
Eh bien, je vais lire donc un poème choisi par Marie de Mahmoud Darwish qui s'intitule « Au dernier soir sur cette terre ». Au dernier soir sur cette terre, nous détachons nos jours de nos arbrisseaux et comptons les côtes que nous emporterons et celles que nous laisserons. Là, au dernier soir, nous ne disons adieu à rien et ne trouvons pas le temps pour notre fin. Tout demeure en l'état. Le lieu renouvelle nos rêves et ses visiteurs. Soudain, nous ne sommes plus capables d'ironie, car le lieu est apprêté pour accueillir le néant. Ici, au dernier soir, nous saturons nos yeux des montagnes qui saignent les nuages, conquête et reconquête, et un temps ancien qui remet à ce temps nouveau les clés de nos portes. Entrez dans nos maisons, ô conquérants, et buvez notre vin. Sur le mode simple de notre Mouwacha. Car nous sommes la nuit à sa minuit, et nulle aube portée par un cavalier venu du dernier appel à la prière. Notre thé est vert et chaud, buvez-le. Nos pistaches sont fraîches, mangez-les. Et les lits sont verts en bois de cèdre, cédez au sommeil. Après ce long siège et dormez sur le duvet de nos rêves. Les draps sont mis, les parfums déposés aux portes et les miroirs nombreux. Entrez-y pour que nous nous en sortions jusqu'au dernier. Et sous peu, nous chercherons ce que fut notre histoire autour de la vôtre dans les contrées lointaines. Et à la fin, nous nous demanderons l'Andalousie fut-elle là ou là-bas, sur la terre ou dans le poème ?
Merci Marc, c'est magnifique. Alors maintenant, je vais demander à Marie de se présenter, de nous dire comment la, et de se présenter, de nous présenter son métier et nous dire comment la question palestinienne est entrée dans sa vie. Marie, à toi.
Bonsoir Claire, bonsoir Farah, bonsoir Marc. Je m'appelle Marie Agéniès, je suis réalisatrice de documentaires. À côté de ça, je travaille dans la vidéo, je fais des photos et des vidéos, j'ai ma boîte de production. Et Une mémoire contre l'oubli, mon premier documentaire indépendant, que j'ai réalisé, que j'ai écrit, réalisé, financé seule et avec l'aide de bénévoles qui m'ont grandement aidée. J'ai eu une bénévole qui a fait la traduction du film. J'ai quelqu'un qui m'a aidée aussi pour le mixage. J'ai quelqu'un qui m'a aidée. J'ai un ami cher, Nadir Dandoun, qui m'a aidée pour le montage. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidée. Adèle aussi qui est venue avec moi bénévolement, qui a mis son temps et son argent pour venir filmer avec moi pendant quelques semaines en Palestine. Voilà, que des gens de bonne volonté pour m'aider à créer ce film.
Et pourquoi ce film? Comment? Pourquoi?
Alors, pourquoi la question palestinienne? C'est venu assez tôt, en fait. C'est venu quand j'avais... pas si tôt, entre 15 et 20 ans. Disons que je me suis intéressée. J'étais assez intéressée à la question, aux questions géopolitiques. Et je me suis intéressée à... En fait, la question coloniale, décoloniale, Frantz Fanon, Aimé Césaire, et la Palestine est venue forcément sur le tapis. C'était le grand dernier bastion du colonialisme occidental, qui est toujours existant. Et en m'intéressant à cette question, j'ai commencé à lire beaucoup de livres. Et le deux poids, deux mesures aussi, quand je me suis intéressée à cette question et que j'ai appris ce qu'il y avait sur place et que j'ai commencé à suivre même sur les réseaux sociaux des militants, des comptes qui parlaient de la Palestine au jour le jour, et cette désinformation qu'il y avait au quotidien en France a commencé à vraiment à me toucher et m'indigner en fait. Et je me suis dit un jour, moi j'aimerais y aller et qu'est-ce que je peux faire pour eux? J'aimerais chacun ses armes et moi ça serait la vidéo. Donc je m'étais dit un jour j'irai. Et les années sont passées, j'ai essayé de m'incorporer à plusieurs projets qu'ont tous avorté les uns après les autres. Et au final, en 2013, j'ai décidé de partir avec une amie à moi et voilà, de prendre mes billets un petit peu sur un coup de tête. Et j'ai contacté un militant, l'ancien président de l'association France-Palestine, Jean-Claude Lefort, que j'avais sur les réseaux sociaux. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais tourner quelque chose en Palestine. Et j'ai pas contact sur place. Est-ce que vous pouvez me donner un contact? Et il m'a mis en relation avec Salah Amouri. Et oui, alors pour vous dire...
Tout ça à plat.
En fait, je l'avais croisé à la fête de l'humanité 2 ans avant. C'est pour ça que je l'avais sur les réseaux sociaux. Et à cette fête de l'humanité, il y avait Fadwa Barghouti, la femme de Marwan Barghouti, qui est toujours en prison, et qui a écrit le livre « Écrit de prison ». Et donc sa femme venait présenter ce livre et parler des prisonniers politiques qui sont donc en Israël. Et ça m'avait beaucoup marqué, le fait que j'avais jamais entendu parler de ça avant, voilà, dans les médias, jamais. Et le stand de la FPS donc en parlait beaucoup et ils parrainaient des prisonniers, etc. Donc je m'étais rapprochée d'eux à ce moment-là. Et j'avais moi-même parrainé un prisonnier à l'époque, c'est-à-dire que j'écrivais à un prisonnier qui était là-bas depuis... donc on était en 2013, ça faisait plus de 10 ans qu'il était incarcéré. Et il y est toujours, il est incarcéré pour 4 fois perpétuité, je crois. Et voilà, donc la cause des prisonniers politiques avait commencé à me toucher, me parler. Et je m'étais dit, si je vais là-bas, je voudrais parler d'eux. Et c'est pour ça que quand j'ai contacté Jean-Claude, je lui ai dit, je voudrais faire quelque chose sur les prisonniers politiques. Et tout de suite, lui qui est un proche de Salah, il m'a dit, je vais te mettre en relation avec Salah. Et voilà, et Salah, en fait, m'a un peu pris sous son aile et c'est devenu mon guide sur place. Et c'est lui qui m'a présenté tous les gens que j'ai connus au début, en tout cas, en Palestine, et qui m'a introduit dans les camps. Mon premier voyage, du coup, j'étais baignée...
C'est dans quelle année, alors?
2013, mon premier voyage.
Ouais.
J'étais baignée dedans direct. Hein, sortie de prison d'un prisonnier qui avait fait 12 ans de prison le lendemain de mon arrivée. J'ai fait une interview. Le jour d'après, on est allé à Déchet, au camp Déchet à Bethléem. On a interviewé 3 adolescents qui sortaient de prison aussi. J'ai interviewé aussi la femme du prisonnier que je parrainais, avec qui je suis rentrée en contact. Et donc j'ai été dans le bain assez directement. Ça a été très plein d'émotions. Et c'est sur place en fait que je me suis rendu compte qu'au-delà de ces petites interviews que j'allais pouvoir faire et mettre juste sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et qu'allait tourner que en fait dans certains milieux un petit peu clos, j'ai commencé à me dire qu'il fallait faire quelque chose d'un peu plus gros. Et c'est en, pendant ce séjour que déjà j'ai connu des Palestiniens chrétiens, voilà, et qui avaient fait des années de prison aussi, qui étaient main dans la main avec les Palestiniens dits musulmans. Il y a des musulmans, il y a aussi des athées, il y a des chrétiens, et aussi on m'a parlé de cette communauté samaritaine qui sont les juifs palestiniens en fait. Et du coup, je me suis dit, là, il y a de quoi faire un vrai film, en fait. Et faut que je revienne, et il faut que je fasse quelque chose d'un peu plus gros que quelques petites vidéos. Voilà.
Bon, alors, avant de nous présenter son film, Marie a aussi choisi les musiques. Donc, la première musique que tu as choisie, c'est
Huria de Fayrouz, c'est celle-ci ?
La première sur ta liste.
Je ne sais plus.
Bon, on va choisir une musique, et elle nous dira après pourquoi ça.
Ok, ça marche.
Merci. Donc, Marie, ton film, dis-nous tout.
Donc, juste pour revenir sur cette chanson, c'est une chanson que j'ai découverte en Palestine, qui était souvent jouée, et qui parle de la liberté. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisie.
Merci. Voilà.
Alors, par rapport à mon film, du coup, mon film fait 40 minutes, et il a pour sujet, donc, trois familles palestiniennes. Deux religions différentes. Donc vous avez une famille musulmane de Toulkarem, de la ville de Toulkarem, une famille chrétienne de Ramallah et une famille samaritaine de Nablus. Donc Naplouse. Et donc dans ces trois familles, il y a eu des prisonniers politiques. Donc il faut savoir que là actuellement, on a 5100 détenus politiques dans les geôles israéliennes, que depuis 1967, vous avez plus de 800 000 Palestiniens qui sont passés par la case prison. Je pense que le chiffre a largement augmenté depuis, parce que ça fait 10 ans que c'est le même. Voilà. Et que en fait c'est un outil de répression collective, la prison, que on en prise. En fait, dans chaque famille, vous avez des martyrs ou des prisonniers politiques. C'est vraiment un espèce de moyen de les bâillonner, de les faire taire. Que vous avez des députés qui sont en prison, vous avez tout type de personnes, des avocats, enfin tout type de personnes de toute strate sociale en fait. Et même les artistes vont en prison à partir du moment où vous décidez de dénoncer l'occupation à voix haute et surtout à l'étranger, enfin vous dérangez et ils vont pas hésiter à vous mettre en prison. Là actuellement, on a aussi 165 enfants en prison. Donc quand on dit enfant, c'est mineur, mais ça peut aller de 12, 13, 14, 15 ans. Et un jet de pierre, c'est passible de 20 ans de prison actuellement en Israël et Palestine. Voilà. Donc c'est un sujet qui est hautement, qui est très important, hein, même pour tous les Palestiniens, cette question des prisonniers. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu me concentrer sur ça. Donc ces trois familles, donc on voit qu'elles sont de confessions différentes et qu'il y a quelque chose qui les relie, c'est la prison. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir de
plus? Bah peut-être présente-les une après l'autre. Voilà.
D'accord. Alors, donc dans la famille musulmane, c'est Jamila. Et c'est une femme d'une soixantaine d'années qui est maman de six enfants. Et six enfants, je me trompe peut-être, je sais plus, six ou huit. Enfin, en tout cas, c'est une mère de famille nombreuse et avec qui j'ai la honte en plus parce que j'ai vécu chez eux pendant plein de trois mois et c'est des gens que je vois encore jusqu'à aujourd'hui. J'étais chez eux l'année dernière, je les aime énormément. Donc ils sont huit. Quatre filles, quatre garçons. Et à l'époque, en fait, son fils Ahmed était emprisonné et il est sorti après 11 ans de prison. Voilà, faut savoir que tous ces garçons ont fait de la prison à un moment donné. Et sa fille, qui devait être à la base dans le documentaire aussi, mais pour des raisons un petit peu pratiques, voilà, j'ai décidé de couper. Et qui est une jeune poète palestinienne, qui écrivait beaucoup aussi sur son frère et sur du coup la difficulté d'avoir des proches qui sont enfermés. Parce qu'elle, rentrée en prison, elle avait 6 ans, je crois. Et quand il en est sorti, elle en avait 17. Donc, c'était plus du tout la même personne. Voilà. Donc, il y a Jamila, donc la famille musulmane. Vous avez Oder Ntissi, qui est là dans la famille chrétienne, et donc, qui est un vieux monsieur qui habite à Ramallah, qui est... Qu'est-ce que je peux dire sur lui? C'est un poète aussi, on a des familles d'artistes. C'est un monsieur qui écrivait beaucoup de poèmes et qui aimait bien me les lire. Et voilà, c'est un monsieur cher à mon cœur. Son fils donc était en prison à l'époque, donc il parle dans le film de cette peine, de la difficulté des trajets en fait pour aller à la prison où on peut mettre plus de 10 heures en fait pour faire un aller-retour, alors que la prison elle est à un quart d'heure en voiture en vrai, mais que à cause voilà des checkpoints, des arrêts, des contrôles, etc. qui font subir aux Palestiniens, ça se transforme en parcours du combattant pour voir à peine trois quarts d'heure son fils à travers une glace, quoi. Voilà. Et la troisième famille, c'est Karim, qui est lui donc un Samaritain et qui a fait 8 ans de prison. Et lui, il témoigne en fait. C'est lui, c'est pas pour le coup, c'est pas son frère ou son père ou sa mère. C'est lui-même qui témoigne de ses conditions en prison, de son éveil politique, je dirais, aussi, voilà, dans le film, il parle de ça, de comment ses sœurs aussi, à force de faire les allers-retours en prison pour venir le voir, qui n'étaient pas forcément très engagées, le sont devenues activement, en fait, hein, parce qu'en fait, c'est quand on voit et qu'on subit la réalité, en fait, de plein fouet, ça pousse à s'engager. Et la sœur de Karim, après, elle avait travaillé pour justement l'association de défense des droits des prisonniers à Tamir.
Et ces trois portraits se sont imposés à toi ou au départ tu avais voulu en faire plus? Comment t'es arrivée à cette épure, parce que c'est vraiment un film, comment t'en es arrivée là?
Alors, à la base, j'avais une famille de plus qui était du Golan, voilà, qui est sous occupation israélienne aussi, mais le Golan, c'est un territoire syrien. Donc, au final, après réflexion, on s'est dit que ça mélangerait trop les gens qui comprendraient peut-être pas, et que du coup, ça méritait à limite un film en soi, l'histoire du Golan. Donc, voilà, donc j'avais des protagonistes, hein, je connais très bien, j'ai passé du temps dans une famille du Golan, et finalement, j'ai, en revenant en France, j'ai décidé de couper au montage. Mon ami Nadir Dendoun, à l'époque, il m'avait vachement conseillé aussi pour ça. Il m'avait dit, épure, va au plus. Enfin, il faut qu'on s'attache au personnage. Et si t'as trop aussi de personnages, tu vas perdre les gens. Et voilà. Et en fait, dans chaque famille, j'avais deux personnages. Donc, la famille musulmane, j'avais aussi la jeune sœur. J'avais la sœur, du coup, de Karim, qui a travaillé pour Adamir aussi. Elle faisait partie du docu. Et j'avais aussi le fils, un autre fils du papa chrétien. Et au final, on a préféré réduire. Et on s'est dit que leurs témoignages, on pourrait les laisser plus de temps, plus les connaître, plus s'imprégner en fait, et du coup ben, ça nous touche plus. Et ce que je voulais vraiment en fait à travers ce film, c'était qu'on voit en fait l'humain en fait, qu'on voit l'humain derrière les chiffres. On parle de Palestiniens, tant de Palestiniens morts, tant de Palestiniens en prison, et là en fait on arrive et c'est on va dans les familles, on va chez les gens, on va dans leur intimité, et ils se livrent. Et pour ça, en fait, moi, j'ai passé du temps avec eux, j'ai vécu avec eux, je me suis liée d'amitié avec eux. C'est des liens qui, 10 ans après, je vais toujours les voir. C'est toujours des gens dont je suis proche, en fait. Et c'est ce qui a permis, je pense, à avoir ce côté vrai. Même pour tout vous dire, au bout d'un moment, en fait, c'était compliqué pour moi de tourner, parce que si je mettais la caméra pendant que, par exemple, qu'ils mangeaient, la mère Jamila, elle me regardait, elle me dit « Mais viens, viens, viens !» Et du coup, en fait, je pouvais plus tourner, parce que j'étais limite comme de la famille. Et c'est ça, en fait, je pense, c'est ça, du coup, qu'a donné ce côté un peu vrai. C'est le fait que je me suis vraiment... je suis pas arrivée comme une étrangère qui arrive. Je me suis imprégnée dans leur quotidien.
Et pourquoi le titre ?
Alors, le titre, franchement, j'avais beaucoup réfléchi. Je l'ai trouvé les derniers mois avant qu'il sorte. Il fallait que je trouve un titre. Et en fait, il s'est un petit peu... Ça a été évident parce qu'en fait, c'est le premier livre que j'ai lu sur la Palestine. C'est pas le premier livre que j'ai lu sur la Palestine, c'est faux, parce que c'était le premier livre que j'ai lu, pour tout vous dire, c'était Israël-Palestine, histoire d'un conflit, de Alain Gresh, qui est un livre très simple mais super, que je recommande à tout le monde pour apprendre les bases. Mais c'était le premier livre d'un auteur palestinien, donc de Mahmoud Darwish, que j'ai lu en 2008. Et pour tout vous dire, ce livre m'a bouleversée, je l'ai lu 3 fois. C'est un livre en prose qui parle, c'est pendant le siège de Beyrouth en 82 qu'il l'a écrit, et il m'a bouleversée parce que c'est magnifique sa manière de parler du café. Bon, au-delà de tout, de la guerre, etc., justement, il parle de son obsession pour le café. Il est sous les bombardements, il est en train de se faire littéralement bombarder, et son obsession, c'est de boire son café noir. Et moi, à l'époque, je ne buvais pas de café. Et pour tout vous dire, j'ai bu du café après ça, parce qu'en fait, il m'a donné envie d'aimer le café. Il m'a fait aimer le café, c'est vrai. Et aujourd'hui, je ne commence pas une journée sans mon café. Alors, je le bois à la cardamone aussi, comme il a décrit, parce qu'en fait, parfois, tout est une question de regard. Et voilà, bref, tout ça pour la petite anecdote. Et ce livre, il m'avait vraiment marqué. Et j'ai trouvé que le titre était fort aussi. Une mémoire, lui, c'est une mémoire pour l'oubli. Moi, j'ai fait un clin d'œil, j'ai fait une mémoire contre l'oubli, parce qu'il ne faut pas oublier la Palestine. Ça fait plus de 70 ans qu'elle est sous occupations. On n'en parle malheureusement que quand il y a des bombardements, etc. Je pense qu'il faut en parler tout le temps. Il ne faut pas oublier, il faut parler des Palestiniens. On les soutient, on est avec eux, et c'était mon petit clin d'œil.
Tu veux qu'on lise
donc Marc va vous lire le passage.
Un petit extrait, parce que je crois qu'il y a au moins 20 pages sur le café.
Un extrait donc de Une mémoire pour l'oubli, dans le café de Mahmoud Darwish. Personne n'entend la supplication qui s'élève de la fumée. Donnez-moi 5 minutes pour que je mette cette aube, ma petite part d'aube, sur ces 2 pieds, pour que je puisse me préparer à entamer cette nouvelle journée née des lamentations. Sommes-nous en août ? Oui, en août. Et la guerre est devenue siège. Je cherche à la radio, ma troisième main, ce qui se passe en ce moment même. Pas de témoins, pas de nouvelles, la radio dort. Je ne me demande même plus quand cesseront les aboiements métalliques de la mer. J'habite au 8e étage d'un immeuble que tout chasseur aimerait épingler à son tableau de chasse. Alors, avec cette armada qui a transformé la mer en enfer, au nord, l'immeuble offrait à ses habitants le spectacle du toit ridé de la mer, façade de verre désormais tournée vers le massacre à ciel ouvert. Pourquoi suis-je venu m'installer ici ? Quelle question stupide ! Voilà 10 ans que j'habite là. et cette débauche de vitres ne m'a jamais dérangé. Comment atteindre la cuisine ? Je veux l'odeur du café. Je ne veux rien d'autre que l'odeur du café. De tous les matins du monde, je ne veux rien d'autre que l'odeur du café. Pour me reprendre, me remettre sur mes deux pieds, me transformer d'animal rampant en être de raison. Saisir ma part d'aube avant notre départ, le jour et moi, vers la rue, en quête d'ailleurs. Comment faire pénétrer l'odeur du café dans mes cellules, tandis que les obus s'abattent sur la cuisine ouverte au-dessus de la mer, répandant des senteurs de poudre et la saveur du néant. Je me suis mis à mesurer l'intervalle entre deux explosions. Une seconde, une seule seconde, pas même le temps de reprendre souffle, le temps d'un battement de cœur. Une seconde, pas assez pour que je me tienne devant le réchaud sous la large fenêtre au-dessus de la mer, pas assez pour que j'ouvre la bouteille d'eau, pas assez pour que je remplisse la bouilloire, pas assez pour que je craque une allumette, bien assez pour que je disparaisse en fumée. J'ai fermé la radio. Je ne me demande plus si les murs du couloir offrent une protection suffisante contre la pluie d'obus. L'important, c'est qu'il existe une paroi pour me dérober à ce ciel transformé en métal dévoreur de chair. Coup au but, éclat ou souffle des explosions. En pareil cas, un rideau épais suffit à procurer l'illusion d'un refuge. Mourir, c'est voir venir la mort. Je veux sentir l'odeur du café. 5 minutes. Je veux une trêve de 5 minutes pour un café. Je ne veux rien d'autre que me préparer un café. Cette obsession me donne un but, un objectif. Tous mes sens sont tendus vers cet unique appel. Ma soif n'a plus qu'un but. Un café. Le café, pour l'amateur de café que je suis, c'est la clé du jour. Le café, pour le connaisseur que je suis, il faut se le préparer soi-même et ne pas se le faire servir. Car celui qui vous l'apporte y ajoute ses paroles, et le café du matin ne supporte pas le moindre mot. Il est une aube vierge et silencieuse. L'aube, mon aube, est étrangère à la moindre parole. L'odeur du café boit le moindre des bruits, fût-ce un simple bonjour, et se gâte. Le café est donc ce silence originel, matinal, circonspect, solitaire, où tu te tiens tout seul avec cette eau que tu choisis paresseusement et coupée du monde, dans une paix retrouvée avec les êtres et les choses. Eau que tu verses lentement, lentement dans le petit récipient de cuivre, aux reflets sombres et mystérieux, doré, presque fauve, avant de le poser sur un feu doux, ou mieux encore, sur du charbon de bois. Écarte-toi un peu de ce qui chauffe à feu doux pour observer en bas la rue qui s'éveille et qui part à la recherche de son pain depuis que le singe est devenu homme. Rue portée par les charrettes des marchands des quatre saisons, les couplets naïfs des commerçants qui vantent leurs marchandises. Respire l'air venu de la fraîcheur de la nuit. Retourne ensuite à ton fourneau. Ah, si seulement c'était un feu de bois. Et observe avec calme et mesure le jeu des éléments. Le feu qui prend des reflets verts et bleus. L'eau qui se ride et s'exhale de petites billes blanches qui se transforment en pellicules brillantes, laquelle ne tarde pas à s'épaissir doucement, pour crever en grosses bulles qui s'élargissent toujours plus rapidement et se brise, se gonfle à nouveau et se brise, avide de dévorer les 2 cuillerées de sucre dont l'absorption provoque un discret sifflement devenu, quelques instants plus tard, gargouillis bouillonnant, impatient d'une nouvelle offrande, celle de la poudre rugissante, étalon de senteur et de virilité orientale. Éloigne le récipient du feu et entame le dialogue de la main encore vierge de toute trace de tabac ou d'encre, avec la première de ses créations, avec sa création première, qui délivrera en cet instant la saveur de ta journée et le verdict des augures. Elle te dira si tu dois travailler ou te tenir à l'écart du monde. De ce premier geste, de son rythme, de ce qui lui confère le monde du sommeil encore ouvert sur la journée passée, de ce qu'il révèle de ton âme, dépendra la couleur de ta journée. Le café, la première tasse de café, et le miroir de ta main, de cette main qui tourne le breuvage. Le café est déchiffrement du livre ouvert de l'âme, devin des secrets que le jour renferme.
Merci Marc, c'est magnifique. Donc c'était un extrait de Mémoire pour l'oubli de Mahmoud Darwish. Et nous allons continuer de parler du film de Marie Jeuniès, Mémoire contre l'oubli. Marie, ce film, donc c'est ces trois témoignages, comment tu les as fait vivre? Est-ce que les personnes se sont rencontrées? Est-ce qu'elles ont vu le film? Comment ce dialogue entre guillemets interreligieux, comme on dit, c'est un drôle de mot, mais comment tout ça s'est fait? Et sa vie?
Alors les personnes du film ne se sont pas rencontrées. En revanche, ils ont des amis en commun. Voilà. Karim a fait de la prison avec un ami de Salah. Voilà. Donc c'est comme ça tous en fait. Hein, le fils de Odey aussi a fait de la prison avec Salah. Donc en fait il y avait quand même des liens un peu assez proches. Ils ont tous vu le film, je leur ai envoyé. Voilà, je suis en relation encore avec eux. Karim s'est marié l'année dernière avec une Ukrainienne. Alors oui, je voulais parler un peu de la communauté samaritaine parce que du coup, j'ai pas trop expliqué, mais la communauté samaritaine, c'est une des plus vieilles, enfin, c'est une des plus petites communautés au monde. C'est des juifs, mais pas orthodoxes. Ils sont plus que 800 actuellement, divisés entre Naplouse, enfin au-dessus de Naplouse, le Mont Garizim au-dessus de Naplouse, et Holon, une petite ville en dessous de Tel Aviv. Et ils ont les deux citoyennetés, si vous voulez, aujourd'hui, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de citoyenneté palestinienne. Mais voilà, ils sont reconnus comme palestiniens depuis toujours par tous les Palestiniens et de tous les partis. Et pour des raisons un peu électorales, le gouvernement israélien leur a donné les papiers aussi israéliens des années 90. Du coup, c'est un petit peu... ils essayent d'être... ils parlent tous arabes, ils essayent d'être un petit peu neutres. En fait, ça dépend des... Ça, vraiment, c'est au cas par cas, parce qu'ils ont quand même les privilèges, même ceux qui habitent du coup en Cisjordanie, vers Naplouse. Ils peuvent passer la ligne verte, contrairement aux autres Palestiniens, ils ont le droit d'aller de l'autre côté du mur. Et du coup, ça leur donne des avantages. Karim, par exemple, lui, il était poissonnier, il l'est toujours, il est poissonnier, donc il peut aller à Tel Aviv chercher son poisson, à Yafa, chercher son poisson et le ramener dans les territoires occupés. Donc c'est vrai que plus on a de privilèges, plus on hésite à les mettre,
en jeu.
Ouais, en jeu. Donc c'est vrai qu'en fonction de ça, vous avez des gens qui prennent plus ou moins position dans cette communauté. C'est un peu compliqué, mais disons qu'ils sont reconnus comme palestiniens et comme israéliens. Voilà.
D'accord. Et alors après, le film a été vu
Alors le film, du coup, il a été vu par Karim, il était très content. Faut savoir que Karim, il a beaucoup hésité, il a tergiversé, il a dit oui, il a dit non plusieurs fois. Pendant le tournage, il s'est un peu désisté parce qu'il a eu des pressions justement de sa communauté qui lui disait, t'as déjà fait 8 ans, tu vas retourner en prison si tu témoignes, tu vas avoir des problèmes. Donc le jour même du tournage, il m'a planté. Donc c'était un peu compliqué à gérer, mais après, c'est toujours quand tu fais du docu politique et que la parole des gens, en fait, elle peut avoir un impact direct sur leur vie, donc tu comprends. Mmh. Et au final, à la fin de mon voyage, j'allais partir sans son témoignage et justement, j'ai vu un ami qui a fait de la prison avec lui et qui l'a appelé en lui disant « Quoi ? Mais tu vas pas être dans le film de Marie ?» Mais je sais pas ce qu'il lui a dit. Une minute après, il m'a filé le téléphone et là, Karim m'a dit « C'est bon, je vais être dans ton film. » Donc voilà, donc il y avait eu ce moment-là. Après, pendant l'interview, il était un petit peu hésitant, il était un peu hésitant, il avait peur d'avoir des soucis, il me disait tu es sûr que je vais pas avoir de problème, donc moi je lui ai dit moi je peux pas te donner ma parole, j'en sais rien, ça dépend pas de moi. Mais il a tenu quand même à le faire. Et puis après, il y a eu plusieurs moments où il m'a dit je suis plus sûre, etc. Finalement, bah écoutez, c'est bon. Enfin, il a accepté à la fin. Il l'a vu. Il était très content. Mais je l'ai pas trop non plus exposé sur les réseaux. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Une petite pause musicale, peut-être la deuxième chanson que choisie par Marie pour cette émission d'une heure en Palestine.
وسقط العدل على المداخل
سقط العدل
حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الطفل في المغارة
Dis-nous un mot, s'il te plaît, Marie, sur cette chanson.
Alors, c'est une chanson de Fairouz qui parle de Jérusalem et que je trouve magnifique. C'est une ode à Jérusalem et elle m'a fait penser aussi beaucoup à Salah et une grosse pensée pour lui parce que du coup, il a été expulsé de Jérusalem, de son pays, après des années de harcèlement, de prison, d'arrestation arbitraire. Il a fait là plus de la moitié de sa vie en prison et en décembre dernier, il a été expulsé définitivement en fait de sa terre natale et voilà, à l'encontre du droit international, et pourtant personne n'a bougé le petit doigt. Donc j'espère qu'il ira devant la CPI pour faire valoir ses droits, mais bon, on ne sait pas ce que ça donnera. Mais voilà, on rappelle que Israël c'est le seul pays qui a 33 résolutions de l'ONU je crois contre lui qui sont non respectées en fait. C'est le seul pays contre lequel on ne fait aucune sanction. Et voilà, donc par rapport à, j'ai choisi cette musique par rapport à Jérusalem, qui est aussi un enjeu capital aussi dans le problème, dans ce qui se passe actuellement. Et voilà, faut savoir qu'il y a 300 000 Palestiniens qui ont juste un statut de résidence sur leur propre terre. En fait, ils n'ont pas de citoyenneté, rien, ce sont des simples de résidents et on peut leur révoquer ce statut à tout moment par des décisions complètement arbitraires aussi. S'ils s'absentent de leur lieu de résidence pendant quelques mois, on peut leur faire sauter leur carte. C'est pour ça que du coup Salah vivait toujours à Jérusalem malgré le fait que sa femme avait été expulsée en 2016 enceinte de 6 mois de leur enfant. Et Salah, s'il venait vivre avec elle en France ne serait-ce que la moitié de l'année, il aurait pu perdre son statut de résident. Et c'est aléatoire, c'est pas un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est en fonction de la personne. On va te dire tu es resté trop longtemps, tu n'as pas le droit et tu ne pourras plus jamais remettre les pieds à Jérusalem. Donc voilà pourquoi ils étaient séparés pendant toutes ces années. Elsa n'avait pas le droit de revenir à Al-Quds et Salah, s'il en partait, il risquait de perdre son statut, qu'il a perdu en 2021. Et justement, après, il est resté de manière entre guillemets illégale. Et il s'est fait expulser en 2022. Salah, qui avait obtenu son diplôme d'avocat et qui milite activement pour les droits de son peuple. Et notamment, il travaillait pour l'association Ad-Damir, qui justement milite pour les droits des prisonniers palestiniens, qui leur donne droit à des avocats gratuitement, etc. Et il allait beaucoup voir justement tous ces enfants à Jérusalem qui sont victimes de l'occupation et qui sont arrêtés illégalement. Voilà.
Et comment s'organisent ces associations ? Est-ce qu'on a du mal à imaginer comment on peut défendre les prisonniers ? Enfin, on a lu que les tribunaux étaient en hébreu. Enfin, on a l'impression que c'est un monde.
C'est des tribunaux militaires pour les prisonniers politiques. Effectivement, ils ne sont pas jugés comme des citoyens israéliens. C'est des tribunaux militaires qui sont illégaux justement encore à l'égard du droit international. Et ils ont des avocats qui vont plaider, qui en général parlent hébreu. Oui, ils s'adaptent.
Et on a lu beaucoup, mais on a tellement l'impression que tout se durcit, que les prisonniers étaient très organisés en prison. Mais est-ce qu'Israël...
Alors les prisonniers, ils sont organisés en général par... disons par champ politique, voilà, ils sont ils sont par chambre, ils se mettent entre eux par obédience politique, on va dire, et après organiser, en tout cas ils essayent, mais ils font des grèves de la faim pour lutter pour leurs droits, pour un minimum de droits, pour plus de visites, pour pas qu'on leur coupe les livres, pour pas qu'on leur coupe ci ça, mais c'est compliqué. Mais justement l'année dernière ils ont fait une grosse grève de la faim, je crois que ça l'a tenu plus de trois semaines, et il a été mis à l'isolement, il a eu de la torture psychologique, ils lui mettaient de la nourriture devant les yeux pour le pousser à craquer, etc. C'est un petit peu, c'est un des seuls leviers qu'ils ont, mais il faut savoir que parfois ça marche, parfois ils sont très nombreux, ils obtiennent des petites voilà, des petites victoires, et parfois ça va jusqu'à la mort. Il y a plus de 230 Palestiniens qui sont morts dans les prisons israéliennes depuis 67, je crois, et depuis non, je me trompe peut-être, je crois que c'est 17 morts dans les prisons depuis 2000, en tout cas voilà, et beaucoup par négligence médicale. On se souvient là qu'en mai 2023 il y a Khader Adnan qui est mort après sa grève de la faim. Voilà, il avait fait plusieurs grèves de la faim, ils l'ont laissé mourir, et voilà, parfois ça, ils n'obtiennent pas victoire et ça peut mal tourner, donc ils sont très courageux quand même de faire ça.
Par rapport à cette violence, ce qui est frappant dans ton film, c'est qu'il n'y a pas de haine en... Il y a de la souffrance, mais il n'y a pas de haine. Et pourquoi tu as choisi cet abord interreligieux plutôt que politique, faction, tendance, enfin, pourquoi?
Alors, tout d'abord parce que c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas du tout relayé dans les médias. On en fait beaucoup un sujet juif contre musulman. Mmh. Or, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est clairement politique. Hein. Voilà, c'est du colonialisme, c'est politique. Donc, c'était ça que je voulais remettre un petit peu au centre. Et par rapport au fait que mon film, il soit assez... En tout cas, je n'ai pas de propos violents, je n'ai pas de propos durs. C'est parce que pour moi, en fait, la violence, elle est telle qu'il n'y a pas besoin, en fait, de ce genre de discours. En fait, elle est palpable, la violence, dans l'humiliation, dans ce qu'ils vivent au quotidien, etc. Et en fait, ce que je voulais, c'était là un petit peu mon côté équilibré, c'est parce que moi, je suis assez très engagée quand même dans ma vie personnelle, et j'ai des positionnements assez clairs. Mais ce que je voulais, c'est que je me suis dit, je veux toucher le plus de gens possible. Et comment toucher des gens si tu arrives avec un gros film militant et que tu mets les pieds dans le plat, parfois tu peux rebuter les gens. Donc je me suis dit, en fait la réalité quand tu arrives sur place, elle est telle, tu te manges une claque, et je pense que n'importe quelle personne qui a accès à des témoignages, qui est au courant de la réalité sur place, va revenir changer. Et c'est ce que j'ai vu autour de moi, tous les gens qui sont partis en Palestine, ils sont revenus changer, ça n'a plus jamais été les mêmes, tu peux plus jamais détourner le regard. Et si j'arrivais en fait un petit peu trop militante, j'avais peur de braquer tous les gens qui se disent neutres. Est-ce que moi, mon but, c'était de toucher tous les gens qui connaissent rien à ce conflit et leur montrer en fait la réalité en fait de l'occupation à travers des gens lambda, des vieilles personnes, des... Enfin, je voulais un peu voilà, toucher l'humain en premier. T'as et réussi, après, voilà. Et après, chacun se fait ses conclusions et voilà. Mais c'était mon but.
Et ton film, on peut le voir. Nous, on a eu la chance de le voir tous les. On peut le voir comment, où est-ce que
Alors j'ai une, pour l'instant, comme c'est un film autofinancé, il n'y a pas de distribution, j'ai pas de producteur, donc en fait je vais là où on m'invite, donc si vous écoutez, n'hésitez pas à m'inviter, je vais dans les écoles, je vais dans les centres sociaux, je vais dans partout, dans les cinémas, j'ai fait des cinémas, j'ai fait un peu tout ça, c'est tout ce que je dis. Là la prochaine projection, elle est à Metz le 16, samedi 16 septembre, et après il est question qu'il y ait plusieurs projections à Marseille ces prochains temps, mais on n'a pas encore de date fixe. Donc,
vous les
voilà.
Trouverez dans l'agenda de notre site assopalestinedress.org.
Une petite chose, parce que je trouve que souvent il y a des réalisateurs qui font des bons films ou des écrivains qui écrivent des bons livres, mais moi, des fois je suis déçu parce qu'ils ne savent pas les terminer. Or je trouve que la fin de ton film est inoubliable, parce que donc, ce moment où est abordée la question des mineurs qui se retrouvent aussi en prison, qui est déjà en soi affolant. Et la dernière phrase du film, dont je ne me rappelle pas exactement comment elle est prononcée, mais il y a une des trois personnes qui dit que même l'enfant dans le ventre de sa maman est déjà suspect, voilà, avant même d'avoir respiré notre notre air, quoi. Et ça, c'est quelque chose. On reste avec cette phrase qui quelque part résume toutes les injustices qu'on a entendues auparavant, quoi. Et je trouve ça très très fort, quoi.
Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment dans ce documentaire, tu as porté une autre voix. Parce que sur le terrain, on connaît cette violence. Et là, tu as porté une voix paisible dans la violence. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je crois que c'est important comme...
Et sereine.
Un petit poème de Mahmoud Darwish.
Allez. Hein,
très court. Ici, sur les pentes des collines, face au couchant et à la béance du temps, près des vergers à l'ombre coupée, tels les prisonniers, tels les chômeurs, nous cultivons l'espoir.
Merci Marc, merci Marc. On va bientôt finir cette émission. Marie, quelques mots pour terminer.
Alors quelques mots, si vous n'êtes jamais allé en Palestine, allez-y, prenez votre billet, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, parce qu'on nous fait peur par rapport à la douane israélienne, et c'est vrai qu'il y a des gros contrôles, mais ça, vous passerez, la plupart du temps vous passerez, et c'est un voyage qui changera votre vie et surtout qui est nécessaire, en fait. Parce qu'ils sont isolés. Justement, s'il y a tous ces contrôles, s'il y a toutes ces difficultés pour donner accès au territoire palestinien, c'est pour que les gens ne témoignent pas, en fait, de cette réalité. Donc, il faut y aller, il faut témoigner. D'autre part, si vous pouvez mettre la pression sur vos élus, c'est hyper important parce que malheureusement, la politique française, pour l'instant, elle est très pro-israélienne. C'est catastrophique. Du coup, il faut faire pression sur vos élus. Il faut boycotter au maximum tous les produits israéliens, participer à BDS. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? N'oubliez pas la Palestine, on en parle, on l'oublie pas voilà, toute l'année, pas que quand il y a des bombardements.
Merci Marie, mercredi prochain à 18h. Merci Farah, merci Marc, merci Sidi.
Merci à vous.
Mercredi prochain.
Merci. Au revoir, à bientôt.
Au revoir. Au revoir. Shall I be?